Et bonsoir à tous, bienvenue sur Paris Central. On se retrouve pour le débrief de ce match de Super Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le TFC. Match qui se conclut finalement par une victoire parisienne et le premier trophée parisien de la saison. Même si cette compétition se joue habituellement en août, malheureusement on a été décalé en février pour cette fois. Et même s'il a fallu du temps, Luis Enrique a enfin soulevé son premier titre. Une victoire qui pose quelques questions et justement on va les aborder pendant ce live. Et pour commencer déjà, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Kevzor et Bobo qui sont avec nous ce soir. Bonsoir les gars, comment vous allez pour cette nouvelle année 2024?
Eh
À
ben,
tous en
du
même
coup,
temps, bien sûr.
ouais, ben, je savais pas si Bobo allait se lancer. Du coup, bonsoir à tous. Tout va bien après une victoire du PSG, premier titre pour ce premier match de l'année 2024. Donc, l'année commence bien. Et pour ceux que j'avais pas vu au dernier live, j'espère que l'année démarre bien pour tout le monde. La santé surtout. L'année 2024 risque d'être compliquée. Donc, la santé à vos proches, à vos amis, à vos familles, c'est important.
Bah écoutez, bonsoir à tous et puis bonne année à tout le monde aussi. Un plaisir de vous retrouver pour 2024.
Bah écoutez, déjà bienvenue à tous pour ce live. Et justement, on va commencer par le vif du sujet. Un PSG qui gagne son premier titre, mais pas dans la facilité. Un PSG qui, quand même, est pas mal en phase de reprise. Beaucoup d'appréhension, d'approximation. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, les gars? On va commencer justement par ordre des caméras. C'est Kevzor qui va commencer. Qu'est-ce que ça pensait de cette victoire, on va dire, un peu en demi-teinte, on va dire?
Ben moi, je trouve que la première mi-temps est intéressante. Je trouve que on a vraiment pris le match par le bon bout. J'ai été très surpris, très agréablement surpris par le fait que voilà, on respecte l'adversaire du soir, qui n'est pas forcément très bien classé dans cette Ligue 1. On a été mettre une pression très rapide, on a ouvert le score, on a continué à asphyxier un petit peu ces Toulousains sans forcément se créer de très grosses occasions. Mais concrètement, non, j'ai trouvé que la première mi-temps était intéressante. Maintenant, après, je trouve que la seconde mi-temps, on s'est un petit peu reposé sur nos acquis. Un PSG poussif, 12 tirs à 2 pour le TFC, qui aurait dû réduire la marque et sûrement nous mettre sous pression sur cette seconde mi-temps. Donc, j'ai pas trop apprécié cette seconde mi-temps. Mais j'ai trouvé la première mi-temps vraiment intéressante. Il y a eu vraiment des bonnes connexions à Hakimi Dembélé. Barcola qui a fait du Barcola sur le côté gauche. Hernandez qui était vraiment pour moi pour la première fois de la saison en tant que latéral gauche et pas axial gauche sur un système hybride, il était très haut sur le terrain. Il a fait des choses intéressantes. Et voilà, j'ai quand même kiffé la première mi-temps.
Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, toi, Bobo?
Ben moi, pour un match de reprise, en vrai, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve qu'au niveau physique, on y était plutôt bien. J'ai revu en première mi-temps et un petit peu en deuxième des phases de pressing que j'avais vues en début de saison, que je trouvais assez intéressantes. Donc, en première mi-temps, ce qui m'a, enfin, je trouve qu'on se procure pas mal d'occasions en première mi-temps. Ce qui m'a un petit peu dérangé en première mi-temps, c'est ce côté on n'est pas assez tueur, où on a plein d'occases et on est un peu à vouloir se faire la passe parfaite et on ne conclut pas. Donc ça me dérangeait un petit peu. Mais sinon, d'un point de vue physique, circuit de passe et pressing et envie aussi, j'ai trouvé ce match globalement plutôt intéressant quand même. Je trouve que ça donne un bon allant pour 2024, même si tout n'était pas parfait, quoi.
Non, bien sûr. Alors, moi, de mon côté, un match que j'ai trouvé bon, un peu compliqué dans le sens où Paris a quand même eu énormément de possession, comme à son habitude, a joué haut, comme à son habitude. Mais Toulouse s'est quand même procuré pas mal d'occasions intéressantes. Et on va pas se mentir, sans un Donnarumma qui fait un grand match aussi, ben c'est peut-être pas forcément validé qu'on se balade autant dans ce match ce soir. Donc je me dis qu'il y a quelques satisfactions quand même à retenir. J'ai bien aimé. Justement, l'essai de Vitinha à son poste plus bas sur le terrain, je trouve que justement, on lui reproche de manquer de créativité, de risque offensif, et peut-être que justement, ça peut être une solution de le faire jouer un peu plus bas sur le terrain, justement. Et ça m'amène à l'autre partie que je voulais aborder dans ce live. La deuxième, c'était justement la blessure de Skriniar et l'entrée de Beraldo. Est-ce que, bon, on va rester mesuré, il n'a pas joué énormément, il a fait maximum 30 minutes. Mais est-ce que pour vous, Beraldo, entre guillemets, peut avoir une place à gagner dans cet effectif avec la blessure de Skriniar?
Tonton, tu bugs un petit peu, je crois.
Ah, peut-être, je sais pas. Tu ne m'as pas entendu?
Si, si, on t'a entendu, mais c'est un tout petit peu saccadé et ta caméra, elle bloque un petit peu, j'ai l'impression.
Donc, je repose la question justement. Est-ce que justement Beraldo a une place à gagner avec la blessure de Skriniar ou est-ce que pour vous c'est encore trop tôt et justement c'est Danilo qui prendra le relais sur Skriniar?
Ben, pour ma part, je pense que c'est extrêmement tôt de faire une analyse et de faire un constat parce que on a vu que Beraldo était rentré en jeu, peut-être pas forcément par rapport à ses qualités, mais pour une intégration dans cet effectif avec un bel hommage des supporters pour sa part. Donc je trouve que pour une première, c'est très bien pour lui. Maintenant, le constat est difficile à faire, sans le verra sur la durée. Danilo a quand même parlé en conférence de presse sur le fait qu'il voulait s'inscrire sur du un peu plus long terme avec le PSG, qu'il avait un rôle aussi très différent maintenant au PSG. Donc, je pense que les choses sont claires avec Luis Enrique, comme quoi il a vraiment un statut de sûrement super sub ou remplaçant, mais qui est extrêmement important dans un vestiaire. Il ne faut pas compter que le terrain, c'est un élément extrêmement important qui a de la bouteille. Je pense qu'il est très, très, très travailleur à l'entraînement, qui a un vrai professionnalisme, qui est en capacité d'accompagner les jeunes joueurs, en capacité de faire beaucoup de choses sur le plan psychologique. Et voilà, dans un vestiaire, il ne faut pas que des top joueurs, de toute manière. Ça, c'est une certitude. Maintenant, à voir, on a beaucoup de solutions. On verra comment le coach va adapter tout cela et quelle est la gravité de la blessure de Skriniar. Mais je pense que pour ma part, c'est pas bien le fait que Skriniar se soit blessé. Bien entendu, il ne faut pas que mes propos soient déformés. Mais je pense que ça va obliger certaines choses et voir autre chose. Parce que il était encore sur une prestation qui était, si je suis gentil, médiocre moins. Alors que on maîtrisait plus ou moins ce match.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Bobo?
Bah, je pense que par la force des choses, du fait de la blessure de Skriniar et que Kimpembe, on a eu l'annonce et Nuno Mendes, ça a l'air d'être reporté aussi. Par la force des choses, il va être amené à jouer sûrement assez rapidement parce qu'il n'y a plus que Danilo en solution de rechange. Donc, je pense qu'il va rentrer assez vite dans la rotation. Je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise idée, même s'il ne faut pas attendre grand-chose de lui. Qui rentre direct dans le vif du sujet. Là, aujourd'hui, il a une ovation du Parc des Princes. Bah, je pense que ça peut que lui faire du bien. De ce qu'en disent les observateurs, il a l'air plutôt plus prêt mentalement et physiquement que Moscardo, qui en plus est blessé. Donc bon, si a priori le gars est prêt et qu'il rentre gentiment sans qu'on ait trop d'attentes sur lui dans la rotation, bah, je trouve que c'est une intégration plutôt intéressante pour lui et tant mieux que ça se fasse comme ça, quoi.
Alors justement, avant qu'on continue sur ce live, j'allais vous dire, on est 219 en live actuellement et je ne vois que malheureusement 44 likes. Donc je vais vous demander de faire un petit effort et d'en mettre un maximum en sachant que justement, on fait un effort demain à 17h. On vous donne demain un rendez-vous à 17h sur la chaîne. On sait que vous avez bien aimé notre live au studio pour faire le débrief de PSG Dortmund. Connectez-vous demain à 17h, il y a moyen qu'il y ait quelque chose dans le genre qui se reproduise. On ne sait jamais. Mais petit disclaimer terminé. Justement, je posais cette question un peu innocemment à la base, mais pas tant que ça, dans le sens où on sait que Danilo est reconverti, en tout cas justement en tant que défenseur central, mais de base ce n'est pas un défenseur, c'est un milieu défensif. À l'inverse d'un Beraldo, bon, je ne vais pas non plus me faire le grand connaisseur de Beraldo et vous faire croire que je connais parfaitement le joueur et faire des grands rapports de scouting, mais pour le peu qui ressort de Beraldo, bah, c'est son aisance technique, et justement, bah, pour le coup, Luis Enrique, on parlait de Lucho compatibilité dans les derniers lives du Paris Saint-Germain. Bah, si Beraldo est ce défenseur qui, techniquement, est à l'aise, c'est plutôt à Skriniar et à Danilo de s'inquiéter, dans le sens où, non seulement c'est un défenseur, mais en plus, il répond techniquement aux exigences de Luis Enrique pour jouer dans son équipe. Si, en plus, tu rajoutes à ça que, bah, pour le moment, avec la blessure de Nuno Mendes, on est un peu sur une défense hybride avec Lucas Hernandez, même si, exception ce soir, il a joué plus offensif que d'habitude, bah, je me dis que Beraldo, il a peut-être une vraie place à gagner, en fait, dans cette deuxième partie de saison, surtout si la blessure de Skriniar s'avère sérieuse.
Moi, je pense pas qu'elle soit vraiment sérieuse. Je pense que c'est par précaution qu'il est sorti. On voit que c'est un coup qu'il a pris. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie torsion. Ça, du coup, ça ne peut pas être musculaire. Ou alors, honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose de très grave. Mais encore une fois, je vais insister parce que ça va l'obliger aussi à lui de sortir un petit peu les doigts. Parce que je pense pas que ce soit quelqu'un qui bosse pas. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de sérieux qui essaie de vraiment de faire son maximum. Mais Moi, je reste vraiment sur ma faim et Dieu merci qu'on n'ait pas lâché 70 briques il y a un an et demi, honnêtement. Hein.
Clairement. Oh bah, par rapport à Skriniar, ouais, c'est un match où bah, on n'est pas trop pressé, il y a encore des ballons perdus. Il y a une intervention où il doit y être défensivement là, quand il revient, quand il a du mal et que l'attaquant n'arrive pas à glisser le ballon sur Donnarumma, où il ne gêne même pas l'attaquant. C'est ric-rac, quoi. C'est vraiment très, très ric-rac. Et malheureusement, je ne vois pas de signe qui me dise que ça pourrait aller vraiment mieux. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que tu ne te dis pas, ouais, mais le mec, tu sens qu'il peut progresser physiquement ou tu sens qu'il a besoin de plus jouer ou il n'y a pas trop de perspectives d'amélioration. Et ça, ça fait un peu flipper, quoi. Donc, j'ai peur que malheureusement, on soit au plafond de verre et que ça n'aille pas beaucoup plus haut. Et du coup, on puisse pas réellement compter sur lui sur le moyen et sur le long terme, alors que c'est ce qu'on nous vendait un petit peu il y a un an en nous disant ça va être le mec costaud qui va le stopper à l'ancienne qui va faire du bien à côté de Marquinhos. Là aujourd'hui on le voit pas ce gars là quoi.
Je pense aussi surtout que c'est une histoire de profil, un moment d'utilisation. En ce qui me concerne, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais joueur, il y a surtout une utilisation de contexte. Pourquoi Skriniar était très performant à l'Inter et pourquoi il est bon au PSG? À l'Inter, il jouait dans une défense à 3. Dans une défense à 3 pour de vrai, pas une défense hybride. Ouais. L'Inter jouait plus bas sur le terrain et forcément, Skriniar avait beaucoup plus de sécurité défensive autour de lui. Non, là, à l'inverse, ça reste mon avis, Kev, tu vois, mais moi je pense que dans un PSG où tu joues haut sur le terrain en possession et où on sait que le point faible de Skriniar est la vitesse et les ballons dans le dos, pour le coup, bah, si tu le fais jouer haut, bah, tu t'exposes vachement plus à ça que si tu joues dans une équipe qui va moins maîtriser le jeu. Donc je pense, tu vois, tout simplement que Skriniar, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le genre de joueur que tu mettrais titulaire sous Luis Enrique ou sous Pep Guardiola, parce que bah, techniquement, ils n'ont pas le niveau que demandent Luis Enrique et Pep Guardiola pour jouer. Cependant, ça n'enlève rien aux qualités de Skriniar. Skriniar, notamment, c'est un gars qui est très très bon au duel, vraiment. Il anticipe bien, il défend bien. Cependant, est-ce que ses qualités sont celles qui sont nécessaires au Paris Saint-Germain, ou est-ce que justement... bah, on recrute Skriniar avant Luis Enrique et du coup, bah, surprise, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux aussi.
Ah, mais après, il n'y a pas que ça, parce que je vais rebondir sur ce que tu dis. Skriniar, il est élu meilleur, enfin, un des meilleurs défenseurs de Serie A. Une année où, quand il est élu, c'est l'année où il joue à 4 en défense l'Inter de Milan. Et autre chose, concernant la hauteur de notre bloc, quand il prend la foudre là, sur un 1-2 entrée de surface, notre bloc à ce moment-là était bas. En fait, je ne suis même pas convaincu que ce soit qu'une question de hauteur de bloc. En fait, c'est que dans certaines situations, et dont dans celle-ci où Donnarumma sort très vite sur le joueur qui la glisse pente, c'est que dès que Skriniar est statique, c'est extrêmement difficile pour lui en fait, de remettre ce coup de boost pour redémarrer. Parce que sur cette situation, normalement, il devrait déjà être en fait, sur ses appuis en train de reculer et d'anticiper cet éventuel 1-2. Et c'est là où, en fait, malheureusement, en termes de... Il a beaucoup de mal à démarrer. C'est un joueur... Mais de toute façon, même avant sa blessure, parce que tout le monde parle de sa blessure, c'était quand même pas un joueur qui, en termes de dynamisme, était en capacité, quand il est arrêté, de mettre une très grosse accélération, qui était un joueur très vivace, etc. Mais il est vrai que certaines choses qu'on demande sous ce PSG ne sont... En fait, pas forcément ne sont pas en adéquation avec lui, mais mettent beaucoup plus en valeur ses défauts que ses qualités. Et c'est là où tu vois, quand on parle d'un Donnarumma aussi, on parle d'un gardien qui ce soir, encore une fois, te permet d'avoir un clean sheet parce qu'il a été très bon. Mais sous Luis Enrique, Donnarumma, moi, que je défends beaucoup et que j'adore comme gardien, eh bien, fait en sorte, tout ce qu'on met en place, eh bien, met en avant tous ses défauts, ils sont amplifiés x10. Et c'est là où, en fait, malheureusement, les gens ne retiennent que le mauvais. Moi, le premier, je critique beaucoup Skriniar parce que je ne suis pas forcément fan de ce style de défenseur. Mais en soi, il ne fait pas non plus que des mauvaises choses. Mais moi, j'en attends beaucoup plus sur ses qualités, notamment dans le jeu aérien, où depuis le début de la saison, il est loin d'être intransigeant. Et sur les duels, tu vois. Il doit être pour moi en capacité de maîtriser, de gagner beaucoup plus de duels qu'il n'en a gagné depuis ce début de saison. Mais encore une fois, j'insiste, on voit beaucoup plus ses défauts que ses qualités dans ce PSG-là. Donc, il faut aussi relativiser parce qu'il ne fait pas non plus que des mauvaises choses.
Bien sûr. Après, justement, tu vois, genre, j'ai vu dans le chat qu'on m'a taillé en mode « Ouais, il gagne un tiers de ses duels cette saison. » Oui, cette saison. L'Inter Milan, ce n'était pas le cas. Donc je pense que
non, mais après les stats,
d'utilisation.
Les stats aussi, il faut relativiser sur les stats, hein, parce que généralement les défenseurs, quand tu as 80% de possession du ballon en première mi-temps, les duels que tu dois remporter, ils sont beaucoup plus difficiles que si tu as 20% de possession et que tu te retrouves en fait dans des situations où tu joues des duels où tu as quasiment 2 chances sur 3 de tous les gagner. Tout comme les duels aériens qui sont joués par Marquinhos et Skriniar, c'est des duels aériens où l'attaquant vient s'intercaler entre nos lignes et donc en soi, nos défenseurs sont souvent en retard. Tu vois, c'est pour ça que les stats, il faut en prendre et en garder parce qu'elles veulent tout et rien dire.
Bien sûr, la stat, c'est un outil, c'est pas une finalité, attention.
Là, on exactement. Est
qu'est-ce que tu penses de tout ça, Bobo ? Parce qu'on t'a presque spoilé du débat. N'hésite
non,
pas.
Non, mais j'en ai parlé un peu avant de Skriniar, mais moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est une question de contexte, qu'il n'y a pas tout pour qui brille aujourd'hui à Paris. Mais si on reste dans cette logique, et je pense que la défense à 4, on ne va pas en bouger pour le moment, malheureusement, le fait est qu'il ne gagne pas beaucoup de duels aériens, il ne gagne pas beaucoup de duels au sol, alors que c'est censé être sa qualité. La relance, il est relativement lent, il a du mal à se retourner. Donc, au final, dans ce PSG-là, il a du mal, quoi, et c'est normal. Donc, évidemment, faut être pragmatique aussi. Même si c'est un joueur que c'est évident qu'il a eu des qualités, qu'il a fait des belles saisons, que voilà, c'est un bon joueur. Mais là, actuellement, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est moyen et il n'a pas forcément sa place. Et si on trouve une autre solution, il faut l'étudier parce que c'est limite, quoi.
Alors justement, maintenant, pour conclure ce live qui, désolé, je m'en excuse, ne sera pas le plus long de la chaîne, étant donné qu'on reviendra sur le match justement demain, dans un studio peut-être, probablement, c'est pour ça que je vous redonne encore rendez-vous demain à 17h. Oui, je force un peu, je me permets. Et d'ailleurs, en parlant de forcing, n'oubliez pas les likes aussi, tant qu'à faire, hein, plus de référencement, ça aide au développement de la chaîne, et ça nous permet de proposer du contenu plus intéressant, donc oui, tant qu'on est dans la catégorie forcing, il faut y aller sur les likes et les abonnements. Et maintenant, justement, on va attaquer la dernière catégorie de ce live. Et je pense que c'est la préférée du chat, parce que c'est celle où, en général, tout le monde se défoule dans les commentaires. Je vais faire comme d'habitude, par ordre des caméras. Et là, je pose aussi bien la question à nos amis qui interviennent que aux personnes présentes dans le chat ce soir, et pour ceux qui regardent également en rediffusion. C'est qui vos top et flop ?
Tu peux mettre Didjo qui fait un très bon match. Après, je trouve que c'est quand même extrêmement difficile de sortir des joueurs. Je trouve que collectivement, plus ou moins tout le monde fait une bonne première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, plus ou moins tout le monde est un peu moins bon. Donc, j'ai pas non plus envie de mettre...
Je vais en mettre 3, hein. Tu peux en mettre
4. Non, mais de toute façon, je trouve que Donnarumma est sorti du lot par ses parades qui ont été décisives. Je l'ai trouvé très très bon dans le domaine aérien où d'habitude il a quand même quelques lacunes. Il a été chercher certains ballons en dehors de ses 6 mètres qui étaient très intéressants. Après, je trouve que Marquinhos fait un super match, même dans les relances, il a été très important. Je trouve que Dembélé a fait un très bon match, Hakimi aussi. Tu vois, Vitinha, je l'ai trouvé bon. Lee a eu beaucoup d'activité. Warren, un peu plus discret aujourd'hui, mais pas non plus mauvais, tu vois, parce que.
Non,
je trouve que toute l'équipe globalement a fait un bon match. Si je dois mettre un flop, après ça sera pour moi Skriniar qui a quand même été un petit peu en dessous globalement. Et après, j'ai pas envie de faire d'acharnement, mais je trouve que la rentrée de Kolo Muani est pas bonne non plus encore. Faut vraiment que tu sens que le gars il est stressé ou je ne sais trop quoi, mais il faut vraiment que... En fait, à la différence d'un Dembélé, qui sur certains matchs est un peu moins, on va dire, libéré, là, tu sentais un Dembélé, le mec, il était au five. Tellement... Tu le sentais, en fait, ses bras étaient tellement décontractés, tu sens dans sa gestuelle, le mec est décontracté totalement. Tandis que Kolo Muani, tu sens qu'il est crispé, tu sens que, tu vois, il serre les poings, il n'est pas bien, etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ça joue pas en sa faveur parce que il se doit, tu vois, face à une équipe qui est en train de pousser, qui laisse des espaces, rentrer avec pas forcément plus de conviction parce que tu sens qu'il y a beaucoup d'envie, mais beaucoup plus libéré en fait. Il faut qu'il se lâche. Tandis que tu vois, Asensio, il fait pas non plus une rentrée excellente, mais tu sens qu'il est plus libéré, que ce qu'il fait avec le ballon, c'est quand même un peu plus intéressant. Il y a peut-être un truc qui me gêne. C'est Mbappé en numéro 9. Vraiment, ça me gêne. J'espère qu'on va qu'on va trouver une autre solution. Pour moi, ce n'est pas un numéro 9. Il ne fait pas un mauvais match, mais il ne fait pas un bon match. Et il y a trop de ballons en fait, qu'on ne lui donne pas, parce qu'en étant vraiment axial, il peut moins prendre la profondeur. Et le peu d'appels en profondeur qu'il a eu fait, qui était intéressant, eh bien, Warren lui donne un ballon de merde, un ballon extrêmement simple qui est pourri. Kanguin, à un moment donné, là, sur le côté gauche, il doit lui donner un ballon beaucoup plus tôt. Il touche le ballon deux fois de trop. Donc voilà, six petits points négatifs que je vais rajouter. C'est concernant les centres d'Hakimi. J'ai eu l'impression ce soir qu'à part centrer pour Mbappé, il n'avait envie de centrer pour personne d'autre. Et ça, putain, ça me casse les couilles, parce qu'on aurait pu marquer 2-3 buts de plus. Et chaque fois, il cherchait Mbappé. Même à un moment donné, on a deux joueurs dans la surface. Mbappé qui est tout seul, mais 20 mètres derrière tout le monde. Il cherche un centre extrêmement compliqué. Hakimi, tu fais un super match. Mais mon grand, arrête de chercher ton meilleur pote là sur le terrain. Je centre pour marquer.
Beau.
Top, je pense qu'on peut clairement dire Donnarumma sur ce match, c'est évident. Sort aussi parade décisive, donc ça là-dessus, rien à dire. Je mettrai le duo Hakimi Dembélé, parce que quand ils combinent, franchement, ça régale. J'ai l'impression de voir, ils ont moins joué ensemble, hein, mais Klose Koeman, il y a cette espèce de complémentarité que tu trouves aussi entre un latéral et un ailier qui est très agréable à voir, où tu as l'impression que les mecs se renforcent. Donc ça, toujours très intéressant les deux. Et ensuite, je mettrais le pressing Lee-Warren. Quand ce sont les deux ensemble, je trouve qu'au milieu de terrain, tu retrouves un peu cette dynamique de les milieux qui vont agresser. En première mi-temps notamment, je trouve que quand on perdait le ballon, on le récupérait très vite et assez haut. C'est des choses que je ne voyais plus depuis un moment. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Le pendant de ça, et du coup, je vais enchaîner avec mes flops, c'est que moi, Vitinha en 6, je trouve qu'on perd pas mal de choses intéressantes. Oui, il apporte sa qualité technique. Oui, il y a des passes qui sont meilleures qu'avec Ugarte. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'on peut tous être d'accord. Il n'y a aucun problème. Le truc qui va me déranger, c'est que du coup, on perd sa frappe de balle. On perd ce côté, quand il y a des centres, bah, lui qui vient en deuxième rideau pour apporter une solution en plus. Et je trouve qu'on perd pas mal de son activité, je dirais. Son activité qui est un de ses points forts. Donc oui, il fait des bons matchs. Franchement, les deux matchs qu'il a fait, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je rejoins Kevzor sur l'impact physique. Quand il y a des duels et qu'il va falloir aller au charbon, c'est un peu plus léger du coup. Donc là-dessus, Vitinha, moi j'ai envie de dire oui et non. Je ne suis pas convaincu. Ensuite, j'ai les rentrées de Kolo Muani et Asensio. Asensio, moi j'aime beaucoup ce joueur. Après, sur le côté, je trouve qu'il y a quand même un déficit de vitesse et que ce n'est pas forcément lui rendre service. Alors que quand il est dans l'axe, il peut se balader, il peut utiliser sa qualité technique pour faire des remises, pour même se retourner, mettre des balles en profondeur et également utiliser sa frappe de balle. Donc, je le trouve plus intéressant dans l'axe. Je trouve qu'Mbappé fait plutôt un beau match dans l'absolu. Je trouve qu'il a eu des attitudes intéressantes. Mais je vais revenir sur un point de Kevzor aussi. Et ouais, Kolo Muani. Alors oui, c'est mieux quand il a un impact player parce que du coup, les défenseurs sont un peu plus fatigués. Il peut faire des appels dans la profondeur. Il l'a fait quelques fois. Par contre, techniquement, ça reste très compliqué. À un moment, il fait cette espèce de 1-2 avec Mbappé sur le côté là. Et il fait encore un contrôle où le ballon lui reste dans les jambes et le défenseur reprend le ballon facilement. Et tu te dis, putain, il est un peu en galère sur ces trucs-là. Donc, c'est clairement, il y a clairement la confiance qui joue. C'est une évidence. T'as l'impression que c'est un peu comme Dembélé en début de saison où il avait. Mais là, pour le coup, c'était plus dans le dernier geste. La Kolo Muani, c'est bien avant les derniers gestes. Donc, ça pose encore plus de problèmes. Mais j'espère pour lui que ça va se régler parce que ça fait peur à voir. Et enfin, je vais rebondir sur ce qu'a dit Kevzor, mais je vais faire quelque chose d'un peu plus général. T'as dit par rapport au centre d'Hakimi, je suis complètement d'accord là-dessus et je vais généraliser même à Dembélé, à Barcola et à Hakimi du coup. Je trouve qu'en première mi-temps et en deuxième, il y a plein d'actions où on jouait à faire la passe parfaite pour marquer et très souvent, c'était pour Mbappé. Et ça, c'est un truc qui me saoule et où je trouve que c'est vraiment… Enfin, c'est mettre du copinage des trucs à des endroits où ça n'a pas du tout lieu d'être. Quand tu es dans la surface, il faut tuer. C'est simple. C'est pas compliqué. Il faut marquer, en fait. Et c'est un peu ces trucs où tu peux retrouver, même à un niveau assez faible, à l'entraînement, où tu essayes de faire le beau but, le machin, les trucs. Des trucs qui… Moi, je suis défenseur à la base. C'est des trucs qui me saoulent, même à petit niveau. Donc, et je trouvais qu'on avait un peu ce truc-là en première et aussi en deuxième. Où, alors, Je ne sais pas si c'est l'influence d'Mbappé ou les mecs veulent du coup lui faire absolument la passe. Il y a probablement un peu des deux. Mais du coup, de ce côté-là, il faut que les mecs prennent plus leurs responsabilités, notamment Barcola et notamment Dembélé, ou si à un moment, ils doivent placer une frappe, bah, qu'ils la mettent. Et Hakimi, c'est pareil. Hakimi, tu es capable de mettre des buts. Si à un moment, tu dois frapper ou faire une passe à quelqu'un d'autre d'Mbappé, fais-le, prenez vos responsabilités. Mbappé, il a de l'aura, il a quelque chose. Faut s'imposer aussi au bout d'un moment. C'est pas parce qu'il dégage quelque chose que faut toujours le choisir et tomber dans ce truc-là qui rime à rien, quoi, et qui est contre l'esprit du football.
Après, concernant Hakimi, c'est parce que c'est lui qui est quand même le plus régulièrement en fait en position de centre et qu'il est en capacité en fait. Je pense que c'est le joueur qui est en capacité de faire le plus de bons choix dans cet aspect, parce qu'on sait qu'un Dembélé a quand même un peu de déchets dans cet aspect du dernier choix, et Barcola est encore un jeune joueur, donc c'est pour ça qu'avec Hakimi je suis un peu plus exigeant. Je sais que la relation entre Hakimi et Mbappé elle est excellente en dehors du terrain, mais il faut aussi que ça se concrétise sur le terrain, pas uniquement par une connexion entre les deux joueurs, mais par une connexion en fait avec un aspect collectif qui soit mis en avant et qui permette en fait de gagner ou de marquer plus de buts. Parce que pour les défenses, à la mi-temps, j'imagine que le coach du TFC a dit, les gars, quand Hakimi ou les autres joueurs sont en capacité de centrer, surtout fermer l'axe de passe sur Mbappé, parce que la solution a été régulièrement utilisée en première mi-temps. Et c'est là que je pense que c'est là qu'on a un bel axe de progression qui nous permettra aussi de passer un palier sur cette efficacité et ce manque d'efficacité qu'on a sur le plan offensif.
Alors justement, au niveau des tops et flops, je vous avoue que de mon côté, en fait, on se retrouve demain à 17h, donc je vous les donnerai à ce moment-là. Mais pour ne pas être trop chacal, je vais être sympa. J'ai sélectionné quelques questions dans le chat auxquelles je vais répondre avant de clôturer le live. Et une dernière fois, je vous le rappelle, demain, 17h, on se retrouve en studio et je vais faire le forcing une dernière fois. Donc, tant qu'à faire, n'oubliez pas de liker un maximum pour nous aider à nous référencer au maximum et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et justement, au niveau des questions que j'ai sélectionnées, alors je vois une question d'Apollon, et du coup, je t'avais déjà répondu, notamment sur le duel et la présence aérienne, même si malheureusement, ça ne se voit pas trop cette saison, car beaucoup moins réussite que lors de ces dernières saisons à l'Inter. Alors, Beraldo en centrale, petit de taille, fluet et étonnant. Alors justement, Benjamin, pour te répondre, Beraldo, c'est plus un défenseur moderne, on va dire, il est plus sélectionné par rapport à ses qualités techniques, ballon au pied, son jeu technique plus que son physique. Sinon, oui, je pense qu'il jouera un cran plus haut, 10 ans plus tôt, au hasard, au poste de 6. Et la dernière petite question, c'est PK qui nous dit « C'est un PSG en reprise jeune, un PSG avec des nouveaux, ça devient lourd à force. » On n'a jamais dit le contraire. Alors désolé PK, tu es peut-être arrivé en fin de live où on faisait les flops, mais ne t'inquiète pas, on a donné plein de bonnes raisons d'expliquer de pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de ce PSG. En début de live, on a expliqué pourquoi certains joueurs fonctionnent un peu moins bien. Et si malheureusement tu as raté cette partie, je t'invite à retourner un peu plus tôt dans le live, et comme ça, peut-être qu'on arrivera à être d'accord. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont été présentes pour le live ce soir. Je vois qu'on est 346 en live. Si on peut atteindre les 150 likes, ce serait parfait. Et déjà, un grand merci à Kevzor et à Bobo d'avoir été avec nous ce soir pour le live. Merci au Paris Saint-Germain d'avoir gagné ce match, histoire qu'on puisse ramener enfin un trophée à la maison. Et merci à tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao à tous.